Ce vendredi 1er octobre, les Remparts de Québec sont de retour sur les ondes de Chiz 94.3. Ne manquez pas le premier match de la saison face à l'Océanique de Rimouski en compagnie de Rick Loutier. L'avant-match débutera à 18h45. Remparts contre Océanique, ce vendredi 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Attention, 1, 2, 3...
Cheese!
Hey, vous écoutez Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. C'est un grand retour pour nous, l'édition du mardi. Gabriel Tremblay à l'animation et Jonathan Paradis qui est mon acolyte depuis la saison dernière. Joe, comment ça va?
Hello, oui. Yes. Ça va, merci. Très content d'être de retour. Pour moi, genre, parler de sport avec toi, c'est... Que du plaisir, que du fun.
Ça me fait un velours au cœur.
Bon, merci. La petite fleur est envoyée. Yes. Puis petit salut à PA aussi, qui fait partie de notre trio infernal, mais il sera pas physiquement avec nous.
Pas aujourd'hui, du moins. Par contre, d'ici deux semaines, il sera de retour. Ben, en fait, de façon sporadique, il est dans l'Ohio, à Columbus, cette semaine. Donc, on va lui parler un petit peu plus tard à l'émission. On a enregistré une chronique ensemble un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, voilà, on va parler d'un sport théâtral, disons ça, j'en dis pas plus, pour la fin de l'émission avec PA. Sinon, Joe, de quoi on va parler aujourd'hui? Là, ça fait depuis quoi? Le mois de mai qu'on n'a pas partagé le micro pour parler de sport. Ça fait un petit bout, là.
Ouais, peut-être rouiller un peu, mais ça va revenir assez vite.
On va se dérouiller ensemble.
Ah, clairement. Toi, tu vas sûrement nous faire un petit pitch de soccer, comme à l'habitude. Sinon, notre sport préféré à nous ici, le baseball, évidemment, qui entame sa dernière semaine.
Yes.
Et on a beaucoup de trucs à dire là-dessus. Sinon, le hockey aussi qui recommence. Dans le fond, nous, c'est notre saison forte. C'est bien fun. On manque pas de contenu. Football aussi, mais... Personnellement, c'est pas mon...
C'est pas ton dada.
Pas mon dada, en effet.
Mais on va en parler un petit peu aujourd'hui, alors que je vais faire une mini-chronique sur le football universitaire québécois. Sinon, on va faire une petite escale aussi dans le monde du tennis, parce qu'il y a eu plein de tournois cet été. Évidemment, la saison des grands chelems est terminée, avec le US Open, qui est un petit peu plus tôt au mois de septembre. On va aller dans cet horizon-là un peu plus tard à l'émission. Évidemment, je vais parler de la MLS et du CF Montréal. Maintenant, je l'utilise, là. Le nouveau nom, la nouvelle identité de l'Impact.
Ah, il y a 5 minutes, je m'en souvenais plus.
Ouais, c'est ça. Hein? Mais là, j'adhère, j'accepte, parce que force est d'admettre que le club est en bonne position au classement. Puis bref, je suis presque fier d'eux autres. Je les écoute à l'occasion.
Moi, je suis toujours pas fier de leur nom, mais s'ils font bien sur le terrain, écoute, t'as quoi demander de mieux.
Effectivement, exact. On peut se consoler avec ça. Donc, c'est ça, Joe. On va faire un gros portrait, un horizon, puis on va évidemment parler de baseball beaucoup, comme tu l'as dit. On va faire l'état des forces alors qu'on est à l'orée des séries éliminatoires.
Il y a eu aussi le temps de la relommer dernièrement avec le grand Derek Jeter qui a été intronisé et quelques grands noms. C'est le sujet de mon dernier texte aussi que j'ai fait avec Passion MLB. Qui bat toujours de force. C'était mon 20e officiellement.
Hey, félicitations pour cette collaboration.
Merci.
Écrite.
Et c'est à suivre. J'en fais très rarement maintenant, mais c'est quelque chose qui me passionne toujours. Et c'est différent. Là, la plume puis le micro, c'est deux interprétations différentes de mon opinion sur le sport, mais c'est le fun de plonger un peu dans les deux.
Comment t'as trouvé ça, cette expérience-là? C'est ton 20e texte, donc t'es plus un néophyte, là. T'es presque aguerri. Est-ce que tes textes te prennent de moins en moins de temps à écrire?
Oui et non. Ouais. J'aime toujours les perfectionner jusqu'à la dernière seconde okay. que j'ai, jusqu'à temps que 2 minutes presque avant qu'on le publie.
Ouais.
mais tu sais, j'ai des trucs évidemment que je développe au fur des temps, mm-hmm. au fur et à mesure. Mais c'est surtout au niveau de la technicalité un peu de d'écrire les textes et mm-hmm. de devoir vraiment faire affaire avec leur fichier, leur méthode, leur
ouais. Leur donc, langage sportif aussi, la ligne directrice, la ligne rédactionnelle.
Oui, c'est clair, c'est de m'adapter là-dedans. J'ai jamais vraiment eu d'expérience auparavant dans mm-hmm. ce domaine-là. Donc, c'est le fun, je découvre, j'ai yes. du fun, puis c'est l'important.
Yes, ça fait un petit bout que je t'ai pas lu, donc j'irai lire ton dernier, ton 20e.
Oui, c'est sur ma page Instagram aussi, le lien est là, si jamais.
Yes, sir. Yes, sir. Hey, avant que je parle de football universitaire, on va se lancer en musique avec la tune de Hempas et Shreeze. Donc, on est dans le rap keb. À plein, à fond Léon, avec Victory Lap. Donc, vous écoutez ça sur les ondes de Chiz 94.3. C'est let's conduite go. Anti-sportive. High crash fighter, la monga. Autodidac, yeah. Victory Lap. J'ai qui est posé. J'ai qui est strapped. Match boycotté. Parce que je suis black. C'est comme match boycotté. Tu veux toujours débattre. Même quand c'est des facts. Ça m'en passe à jamais. Jamais au cap, bringing it back. J'sais qui est posé,
j'sais qui relax,
j'sais qui est strapped,
j'sais qui a les straps.
On est là pour exploser, Montréal sur la map. Pas dans le chat, hey.
Oh oh chérie, si tu me quittes,
si tu bouges,
reviens pas quand on va make it.
Zion Squad, tu connais, hey. L'héritage se reconnaît, hey. Dans le temps, j'ai déconné, j'ai changé de mode. Matthew McConaughey, hey. T'es devant des gros bonnets, hey. Compte vérifier tes abonnés, hey. J'ai travaillé, c'est pas donné, hey. Défonce les portes 30, ça sonnait, hey. On parle de gold, tu peux me nommer, hey. Montréal Est à Los Angeles, dans l'ascenseur plein Playboy Bunnies, hey.
On connaît pas la pression, baby. Mais garde derrière, c'est la légion, baby.
On génère, avec où? Sans ressources générales, c'est pas un sprint, marathon, j'suis dans la course, dans la
tous les jours, j'fais de la gestion, bébé. Si la police me pose des questions, j'suis bébé.
On dit rien, on prend tout, car avant d'être dans le rap, j'étais le bloc, j'étais la source. On va mettre Montréal sur la map. Et déjà dans mon 5-4 pour EP, j'veux 50 battes. Pour 5 chansons, pas 50 tracks. J'me rappelle quand j'avais pas 50 piastres. Maintenant, j'mets 50 piastres sur ma jazz. Trop différent pour fit dans la masse. Trop d'ambition pour m'asseoir en classe. On ne suce pas d'être pour du love. On nous en donne car on est nice. Haïtien d'origine. Normal que j'parrête avec 9 spice. Les spots pour moi, c'est comme une tasse. Si j'passe one, j'peux passer twice. J'casse tout, j'suis même pas Bryce. Y'a 9 kilos sur mes putains de Nike. Rien à foutre de tes putains de likes. J'paye mon loyer avec un putain de mic. J't'en ai de voir mon putain de track. J'suis tanné de traîner des putains de swipe. L'instru, j'le découpe en plusieurs slices. T'aimes ce que t'entends, faut payer le price. Be comme Nick, y'est mieux d'être right. T'étais où quand j'pédalais le putain de bike? T'étais où?
On connaît pas la pression, baby. Mais garde rien, c'est la légion, baby.
On génère, avec où? Sans ressources générales, c'est pas un sprint, marathon, j'suis dans la course.
Tous les jours, j'fais de la gestion, baby. Si la police me pose des questions, j'suis bébé.
On dit rien, on prend tout, car avant d'être dans le rap, j'étais le bloc, j'étais la source. Demande-toi pas pourquoi je t'évite.
Non!
T'étais où quand je savais pas si j'allais make it?
T'étais où?
De quoi tu te mêles, man? Vers le mailman. Un autre chèque dans l'enveloppe. Tu t'accroches quand on level up. Cut!
Bye!
C'était Hempas et Shreeze avec Victory Lap sur les ondes de Chiz 94.3. Vous n'écoutez pas les architectes du son, mais bien conduite anti-sportive. Joe, est-ce que tu as suivi un peu les dernières semaines dans le monde du football universitaire québécois?
Non, donc je compte sur toi pour nous en informer.
Je vais t'en informer un peu, mais je ne parlerai pas du rouge et or. Donc, même si ça va pas super bien pour notre club ici à l'université, je pense qu'ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Ils tenteront de rebondir cette fin de semaine. Mais c'est du côté de McGill, d'ailleurs, le prochain match du rouge et or, dimanche, si je ne me trompe pas, le 3 octobre.
Une bonne nouvelle, vas-y avec une bonne
nouvelle. Oui, une bonne nouvelle maintenant. Écoute, samedi passé, le vert et or de l'Université de Sherbrooke a perdu 42-39 contre les Stingers de Concordia. Okay? Mais dans ce match-là, Olivier Roy, qui est le corps arrière des Stingers de Concordia, a lancé pour 580 verges de passes aériennes et 5 passes de toucher. Donc, ça fait un espèce de match de fou, même un match légendaire là, au football canadien, universitaire canadien. C'est un record, les 580 verges pour un corps arrière en un seul match. La marque précédente, c'était 557 verges. On sait, Joe, que le football universitaire canadien, même ben, t'sais, québécois universitaire, là, autant la LCF que les ligues universitaires, ça se passe beaucoup par le sol. Donc, les verges au sol sont facilement cumulées là, à maintes reprises dans un match. Par contre, la voie aérienne est un peu délaissée parce qu'on s'entend, ça prend un Christie de bras traverser un terrain, surtout avec un ballon de football canadien. Mais là, Olivier Roy, 22 ans, puis notre Olivier Roy, 22 ans, il vient de Donnacona. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est mon patelin. Olivier, c'est le cousin de mon bon ami Kevin, et ben, je l'ai coaché au tennis quand il était plus jeune, Olivier Roy. Donc, je suis assez fier de ce jeune homme. Maintenant, il est rendu à 22 ans, ça me fait capoter. Pour moi, c'est toujours
fou,
un petit garçon.
Je comprends la petite fierté que tu peux avoir là, en tant que ancien entraîneur là, aussi. C'est beau à voir. Puis c'est, pour un jeune homme, il a 22 ans.
Écoute,
aussi, c'est un grand accomplissement.
Puis c'est de loin là, le joueur le plus flamboyant sur le circuit universitaire canadien en ce moment. Écoute, il y a... C'est sa deuxième meilleure récolte de la saison, là, d'ailleurs. Là. Puis c'est fou raide, là, je veux dire. Autant, en fait, des passes de toucher que des verges aériennes. C'est fou ce qu'il accomplit maintenant. Là. Il a reçu le titre de joueur de la semaine en attaque dans le réseau universitaire québécois. Puis pour une troisième semaine consécutive, jusqu'à maintenant, là, en 2021, depuis le début de la saison, il a amassé 1418 verges et 13 passes de toucher. Donc, franchement, bravo, Oli.
très impressionnant.
C'est juste vraiment, vraiment hot ce qu'il est en train de faire. Puis, ben, j'y lève mon chapeau. Voilà. Puis, les Stingers de Concordia, elles sont un bien meilleur club avec lui. C'est fou raide, là. Je pense que maintenant, tu sais, c'est un club compétitif, autant au niveau de leur section avec les Carabins, puis maintenant les Redbirds de McGill. Non, j'allais dire les Redmen, l'ancien nom de l'Université de McGill. Donc, ouais, je pense que les Stingers sont vraiment compétitifs avec lui derrière.
Ouais, puis on sait, le football, c'est vraiment, tu peux rien faire tout seul, on s'entend, là, tout est synchronisé avec un autre joueur, du moins chaque jeu.
Non, exact.
Puis il a pris vraiment la peine de remercier tous ses receveurs aussi. Genre, il a pris un bon, très long temps pour ça. Fait que c'est admirable de sa part quand même, mais parce que évidemment, il n'a pas tout fait ça tout seul.
Ben non, exact. Puis ben, effectivement, c'est un effort collectif, mais quand t'as une pierre angulaire sur qui tu peux compter, ben l'unité devient vraiment plus forte, et c'est ce que Oli est en train de faire. Fait que bravo aux Stingers de Concordia, franchement. J'ai un autre petit bonbon, un petit trophée à envoyer à Leila Fernandez. On passe dans le monde du tennis, donc le tennis canadien qui est mis à l'honneur ici à Conduite Antisportive. Joe, on avait parlé un petit peu, je pense, un peu plus tôt en saison, donc au printemps dernier. Je sais pas si tu te souviens un peu de Leila Fernandez, qui est la joueuse la mieux classée en ce moment au Canada. Ben, au Québec, parce qu'elle est très jeune, là, mais parce qu'il y a effectivement Rebecca Marino aussi qui pousse, et Bianca Andreescu, mais qui est blessée souvent ces temps-ci. Leila Fernandez, elle a seulement 19 ans. Elle vient de percer le top 100 mondial. Elle est maintenant 90e après une finale du US Open. Donc, c'est pas rien. Dans cette édition du US Open, qui se passe toujours à New York, Flushing Meadows pour les intimes, Leila Fernandez a battu Naomi Osaka, qui est troisième mondiale. Elle a battu aussi Angélique Kerber, l'Allemande, qui est 16e mondiale. Donc, fou raide en des 16. Après ça, encore des finales, elle a défait Elina Svitolina, ukrainienne, qui était 5e mondiale à ce moment-là. Écoutez, en semi-finale, elle a battu la Biélorusse Arina Sabalenka, qui était deuxième au classement aussi. Donc, écoute, elle a eu un parcours fulgurant. Malgré tout, je veux dire, elle a fait une finale de du US Open à 19 ans. Très peu de tennis women sont capables de faire ça, et même de tennisman. Donc, c'est assez fou ce qu'elle a accompli, Leila Fernandez, qui est maintenant 90e mondiale. On va suivre la fin de la saison. Là, il reste quelques tournois très mineurs, somme toute, à la saison de la WTA, mais l'avenir est prometteur.
Ouais, vraiment. Je comprends, donc on en a parlé dans les autres émissions avant.
J'avais fait un portrait sur elle, mais maintenant elle me rend
avec
encore
raison,
plus fière, franchement.
C'est vrai,
franchement.
On continuera de parler de ses exploits.
Yes. Hey Joe, avant qu'on jase de soccer, mais surtout de baseball, on retourne en musique. Si tu le veux bien. Est-ce que tu le veux?
Let's go.
Yeah. On s'en va écouter Half-Wife, la pièce Horse Racing. Donc, on reste dans la thématique des pièces musicales, de près ou de loin, à Conduite Antisportive.
gets right under the surface. While you look at your reflection, you're just falling away from everything. Can you see I'm holding? Can you see I'm holding now? And I'm not trying to make you nervous, but I think that we deserve this. Horse racing with me down until the muscle is thin. Look out, another body coming around the bend. Forget it, we're never gonna make it to the end. Horse racing with me down until the muscle is thin. Look out, another body coming around the bend. Forget it, we're never gonna make it to the end. We've been hiding in our habits. What do we think was gonna happen? Oh, someone else is always worse off. We're just finding our way, finding our way. Just telling myself I don't already know. It's been falling apart since the day we started. Yeah!
C'était Half Wave et la pièce Horse Racing. Sur les ondes de Schiste 94.3, vous écoutez toujours Conduite Antisportive. Je suis en compagnie de Jonathan Paradis, ici, en studio.
Toujours moi.
Yes. Joe, avant qu'on parle de baseball, parce qu'on en a même parlé entre les deux chroniques pendant la chanson, je vais faire un petit état des forces de la MLS, donc le foot nord-américain. Le CF Montréal... Et ma foi, surprenant. Donc, j'ai été quand même une langue sale ici en onde au printemps passé, alors que autant le changement d'identité que l'équipe sur le terrain me faisait douter énormément.
C'est vrai.
Et ben, écoute, je dois plier l'échine et m'avouer vaincu parce que crime, l'Impact, maintenant, ce qui s'appelle le CF Montréal, déjoue les pronostics. On est en quoi, 7e position dans l'Association Ouest. Là, vous allez me dire, c'est pas fantastique, il n'y a rien de gagné. Mais c'est un club qui joue quand même en haut de 500, en haut de la moyenne respectable d'une victoire sur deux. Je suis étonné, on est à 37 points. Par contre, là, on a perdu le dernier match samedi dernier contre le Crew de Columbus. Une défaite vraiment cruciale, par contre, quand le Crew pourchasse le club montréalais au classement. Par contre, on regarde ça là, dans les derniers matchs. On est allé chercher un nul aussi contre Nashville. Ça a bien été. L'équipe sur le terrain est quand même soudée. Il y a eu quelques nouveaux venus aussi là, qui ont bien fait. Matko Milevich, qu'on avait été chercher du programme de développement américain, fait très bien. c'est un club assez uni et, ma foi, ben, assez surprenant car il y a plusieurs forces là, dans l'association de l'Est. Le prochain match est vraiment crucial alors qu'on joue contre le New England Revolution qui est premier au classement de l'Est. Donc, c'est vraiment un gros test, un gros défi pour le club montréalais. Mais sinon, tu sais, on regarde l'affiche là, au classement. 10 victoires, 9 défaites, 7 matchs nuls, 37 buts pour alors qu'on a encaissé 32 filets. C'est assez bien, là. Puis à domicile, c'est 7 victoires, 2 défaites, 3 nuls.
C'est une bonne fiche.
Qu'est-ce que t'en penses?
C'est une bonne fiche. C'est très respectable, en effet. Ça l'excuse toujours pas leur changement de nom.
Non, et le dos de Snowflakes, mais non, sinon, <c'est... rire> sinon, écoute, on est 7e au classement, puis on va le prendre parce que je sais pas ce que l'avenir nous réserve, du moins la fin de la saison, réserve aux 11 Montréalais. Par contre, là.
Il doit rester pas tant de parties que ça.
Ouais, en reste quelques-unes, là. Normalement, la saison se finit en décembre, donc je sais pas. Là, il reste encore plusieurs semaines, surtout que le championnat canadien qui bat son plan en même temps. C'est quand même un peu compliqué sur une saison de soccer, surtout en Amérique du Nord. Il y a plusieurs compétitions aussi connexes et ben là, il y a le championnat canadien, la CONCACAF aussi, donc les meilleurs clubs mexicains et de l'Amérique centrale qui s'affrontent aussi contre les clubs canadiens et les clubs américains. Ça, c'est un peu complexe à suivre, mais oui, là...
Ça s'étale aussi sur une longue...
très longue période, tu sais, je regarde ça, là, il y a des matchs encore jusqu'en novembre de saison régulière. Okay, voilà. Donc oui, ben, l'Impact est en bonne posture. Gracieuseté de plusieurs joueurs, dont Jordy Milalovic, qu'on avait acquis du Chicago Fire un peu plus tôt, pendant la saison morte. Jordy Milalovic est de loin le meneur et un peu le cœur de cette équipe-là, surtout au milieu de terrain. On a aussi un nouveau gardien, James Pantemis, qui est issu de l'Académie. Donc ça, c'est un beau cadeau. Donc une belle preuve d'évolution au sein du système de l'Impact du CF Montréal. Bravo à James Pantemis qui a su aller chercher son poste de gardien partant alors qu'on avait un peu au début de la saison une espèce de duel à deux entre lui et... notre gardien sénégalais, dont j'oublie le nom, mais qui vient du LA Galaxy. Bref, c'était quand même surprenant de voir l'Impact aussi bien performer, sans même ces gros canons. Romel Kyoto, qui était le joueur par excellence de la dernière saison chez le CF Montréal, a pas la saison qu'on espérait, marque un match sur 4-5, ça va pas super bien, alors que c'était comme le joueur sur qui on pouvait compter. Mais bref, c'est une belle unité. Le CF Montréal, puis on va suivre le développement. Je vous en parlerai certainement la semaine prochaine et je vous parlerai du résultat de la semaine prochaine alors que le Crew de Columbus débarque en ville.
Et ça demeure notre équipe locale. Hein?
Tout à fait. Tout à fait. Yes.
On les aime.
On les aime. On les aime-tu? Tu n'aimes pas l'identité, j'espère. Hey Joe, de quoi qu'on va parler là?
On embarque là-dedans.
Yeah, baseball.
It is time for baseball time. OK. Là, il y a beaucoup à parler, évidemment. Toute la saison qui est derrière nous aussi, qui achève, il reste une semaine.
Ouais.
Une semaine très importante, surtout pour notre équipe canadienne. Et,
c'est ça, il n'y a presque rien de joué en ce moment, là.
Non, c'est fou, là. Quand on parle de course aux séries, c'est un sprint, là, même en ce moment, là. C'est entre trois équipes. Trois équipes quand même majestueuses, trois équipes marquantes, là,
ouais,
si je peux dire.
L'Est de l'Américaine.
Les Yankees et les Red Sox aussi. Donc, c'est une très belle course à suivre, on va en parler un peu.
C'est
et les séries aussi qui s'en viennent. Il y a quelques équipes qui ont déjà leur billet pour les séries, dont les Rays de Tampa Bay. qui sont vraiment rois de la Ligue américaine en passant. Là,
ouais.
Et de loin, on attend leur 100e victoire très bientôt. On espère cette semaine, en fait.
Ouais.
Et les autres qui
ton club de
sont
cœur,
derrière.
Ton club de cœur, rappelons-le.
Ouais, et on espère répéter l'exploit l'année passée. Ils se sont rendus, on se rappelle, jusqu'en finale de la Série mondiale. Malheureusement, pas remporté, mais une deuxième chance s'offre à eux.
Bien sûr.
On peut espérer que...
Écoute, ils ont la saison rêvée pour ça, du moins. Même s'ils ont perdu de gros canons, là, comme le lanceur qui est rendu chez les Padres.
Snell, Blake Snell.
Ouais, c'est beau petit blanc. Mais ils ont perdu Blake Snell, mais par contre, ils se sont bien repris et ont fait de bonnes signatures. Là. Rich Hill, entre autres.
Ouais, même les prospects, cette année, ils se présentent et ils font leur marque aussi.
Wow, Wander Franco.
Ouais, c'est la premier sensation. Nom qui me vient en tête, en effet. Mm-hmm. C'est la sensation. C'est lui qu'on entendait tous avec impatience à son entrée dans les ligues majeures. Et il fait une très bonne impression. Là, en ce moment, il est sur une séquence de 41 parties de suite sur les buts, en fait. Et ça, c'est près du record. C'est 43, le record. Donc, on croise les doigts qu'il va réussir cet exploit. C'est admirable. Je veux dire, à sa première saison, là. C'est à imaginer ce qu'il va accomplir dans les 2, 3, 5 ouais, 6 prochaines années. Ouais.
Exact, exact. C'était aussi l'éclosion de Randy à Rosarena qu'on avait observé et savouré durant les dernières séries éliminatoires, les dernières séries mondiales. Il a bien fait cette saison-ci, puis il y a une belle combinaison entre puissance et vitesse sur les chantiers. Il m'a impressionné aussi, puis c'est aussi le retour en force d'un gars comme Austin Meadows qui avait eu une fin de saison difficile l'an dernier. Ben, une saison difficile tout court l'an dernier. Donc, ouais, les Rays méritent amplement leur première place dans l'Est de l'Américaine. Écoute, les Yankees et les Red Sox, là, c'est une lutte éternelle et infinie. Là. On dirait que depuis le début de la saison, les deux clubs s'alternent la position de deuxième dans l'Américaine.
Ouais,
et avec les Jays aussi, là, les Jays sont vraiment pas loin non plus.
Ce qui rend le tout intéressant, puis surtout pour nous, veut pas, comme on dit depuis le début, mon équipe de cœur, c'est vraiment les Rays, mais les on peut pas nier l'appartenance aux Blue Jays de Tampa Bay. Regarde, tu vois.
Toronto.
Je crois tellement à ce que je dis. Hein. Non, mais aux Blue Jays de Toronto, je veux dire, c'est notre seule équipe qu'on a ici. Moi, je me souviens aussi de leur dernière série en 2014, je pense, avec Bautista, Edwin Encarnacion. Ouais. J'étais de feu avec eux. Je leur souhaitais vraiment l'exploit. Mm-hmm. Mais finalement, c'est sûr que quand c'est dans la même division puis que tu as environ 23-24 parties contre la même équipe, c'est sûr que c'est dur d'avoir un parti pris et d'aimer les deux côtés, mais on peut pas nier les Blue Jays de Toronto.
Mais justement, tu parlais de leur dernière finale en 2014. Le processus de reconstruction fut assez long. Par contre, là, on est encore au début là, de la reconstruction des Jays, alors que les Vladdy Guerrero Jr. sont très, très jeunes. Bichette aussi est très jeune.
Ouais, Kevin Biggio aussi qui revient justement au jeu.
Lourdes Gurriel est jeune. Teoscar Hernandez aussi.
Avec Judge Springer qui est...
Avec le joueur vedette, Andrew Springer. Pour vrai, belle équipe, les Jays cette année. Robbie Ray lance comme jamais. C'est le Robbie Ray qu'on attendait en Arizona. Donc, il y a Hyunjin Ryu qui est un point d'interrogation, à mon humble avis. C'est pas encore un as. C'est pas un as établi, même s'il était... Je veux dire... C'est un gars qui peut être nominé au Cy Young à chaque année. Là. Il a le talent et le potentiel pour le faire. J'ai hâte de voir d'ailleurs si un match de meilleur deuxième, on confie la balle à Robbie Ray. Je sais pas si tu as vu ça récemment.
Non.
Ouais, donc ce sera lui qui sera d'office pour les Blue Jays si match de wildcard il y a.
Ce qui serait préférable dans mon cas.
Ouais.
Mais Ryu, c'est ça, il va pouvoir se prouver encore ce soir contre les Yankees, un match crucial contre Tyon.
Jameson Tyon.
Yes. Ça va être un bon match si vous voulez suivre les Blue Jays ce soir dans leur course aux séries assez folle.
Yes, yes, yes. Hey, dans la centrale, il n'y a pas grand chose à dire. Les White Sox sont maîtres.
Ouais, quand même, mais je m'attendais pas à ce qu'ils performent autant vu les dernières saisons horribles. Je veux dire, les White Sox sont partis de loin.
Ouais, ils sont partis de loin.
Ça n'a pas été une ascension comme on parle des Blue Jays en ce moment depuis 2014.
Non, c'est ça.
Je veux dire, juste l'an passé, je pense que les White Sox étaient.
Oui, ils ont fait les séries, par contre, ils sont fait éliminer par.
L'autre saison d'avant.
Ouais.
En tout cas, il y a quelques années, ils étaient. Toujours pratiquement dans la cave.
Ça fait deux saisons que ça va très bien avec José Abreu, Luis Robert aussi qui est vraiment très fort.
C'est fun de voir comment ils ont bien amassé les morceaux ensemble rapidement. Puis je pense qu'ils vont se rendre quand même. Ils ont une bonne chance aussi dans les séries.
Tout à fait. Lance Lynn qui est leur as partant super bon. Dallas Keuchel a une saison difficile. Par contre, on a vu Dylan Cease qui a lancé presque un match parfait aussi en début de saison. Il y a un bon arsenal de lanceurs du côté des White Sox. Donc, pour vrai, c'est un club assez complet. Il n'y a pas vraiment de maillon faible dans cette équipe-là. Puis c'est de loin l'équipe reine de Chicago cette année, alors que les Cubs...
Et de la centrale, loin. C'est déjà réglé, en fait, de ce côté-ci. Les quatre autres sont éliminés.
Les Indians sont à 11 matchs et demi, donc on oublie ça. Dans l'ouest de l'Américaine, maintenant, Joe.
C'est pas tout à fait terminé. On a les Astros qui sont quand même premiers. Moi, je pense qu'ils vont quand même réussir à garder la place, leur premier rang. Mais faut pas sous-estimer non plus les Mariners qui sont en dessous.
Ouais.
Et qui concoctent, c'est ça, qui essayent de se rendre dans le wild card.
Qui l'eût cru quand même?
Pas moi. Pas toi non plus, j'imagine.
Non, vraiment pas.
Non, c'est ça, les Mariners contre toute attente. Mais c'est comme ça chaque année. Hein. Ils sont toujours sur la peau des fesses. Ils sont toujours à deux victoires de passer. Puis finalement, il manque toujours un peu de souffle. Puis j'ai l'impression que ça va être le même scénario cette année. Mais comme là, avec. Puis c'est drôle, il y a un meme qui circule aussi sur les réseaux sociaux avec les. Sur les comptes des Orioles de Baltimore, en fait. Le lien, c'est que les Orioles pourraient. En battant les autres équipes, aider en fait les Mariners à accéder aux séries.
Pour le meilleur deuxième dans la course.
Pour le meilleur deuxième, oui. Ouais. Donc, mais comme je dis, d'après moi, on va manquer de souffle encore cette année. C'est un pattern qui se répète malheureusement pour les Mariners.
J'ai l'impression aussi, et on avait une espèce de syndrome d'autodestruction du côté de Seattle. À chaque saison, à la date limite des transactions, on échangeait nos meilleurs éléments. Cette année, par contre, on a changé la donne. On a changé la formule un peu. On a libéré Rafael Montero, qui était un des deux lanceurs de fin de match, deux closers. Et on a échangé aussi Kendall Graveman aux Astros de Houston, dis-je bien, qui est leur plus proche rivaux en plus, là, contre Abraham Toro, joueur de troisième but québécois. Donc, on s'est assuré d'avoir un joueur de troisième but, je dirais, pour l'avenir, disons ça, alors que Kyle Seager devrait quitter cet été, qui est le frère de Corey Seager, qu'on connaît pour les Dodgers. Donc, ouais, Kyle Seager qui devrait quitter, alors qu'Abraham Toro sera visiblement le joueur de troisième but d'assurance et du futur pour les Mariners. Donc, belle addition quand même à la date limite des transactions, surtout que Toro fait très bien.
Ouais,
grosse saison quand même.
Puis, juste se mettre en petit astérix, les Athletics d'Oakland aussi sont pas officiellement éliminés du wild card. Du meilleur deuxième, en fait. Ils sont à trois parties, donc c'est à suivre. Mais...
Ils ont quand même chuté parce qu'il y avait une très belle séquence de victoires.
Ils ont eu 13-14 victoires consécutives, c'est vrai.
Et c'est toujours un club qui finit par se faufiler en série mondiale. Je sais pas trop comment, mais là, cette année, la magie, finalement, n'opère pas. En tout cas, du moins, la semaine n'est pas terminée, mais ça achève. Les chances sont très minces de les voir... du moins au match de meilleur deuxième.
Ouais, pas beaucoup de marge de manœuvre, en effet, pour autant eux, autant les Mariners de Seattle.
Hey, on parlera pas vraiment longtemps des Angels de Los Angeles, mais faut quand même mentionner la saison phénoménale de Shohei Ohtani. Il a lancé quoi? 140 prises et 40 circuits. Il a frappé 40 circuits. C'est quand même vraiment débile ce qu'il a fait. Retrait sur des prises, dis-je bien, là, pas 140 prises. C'est un tout petit taux. Mais donc, ouais, saison phénoménale pour Shohei Ohtani, mais en vain.
Ouais, juste dans leur finale à domicile, il y a eu 10 retraits au bâton.
Ouais.
En tant que lanceur. Puisqu'on sait qu'il peut faire les deux, les deux jobs, il peut tout faire, écoute.
C'est ça le hic. Ben, c'est un beau problème pour les Angels. Par contre, on ne peut pas en profiter. Les étoiles ne sont jamais alignées, visiblement. Quand Ohtani est en forme, Mike Trout se blesse. T'sais. C'est un peu
dommage. C'est dommage, un peu dommage dans ce cas-là. Mais on va peut-être des chances aussi pour le MVP. C'est ce que les partisans criaient dans le stade, là, le gros chant MVP qui se faisait entendre dans le Angel Stadium.
J'ai envie de t'entendre là-dessus, Joe. Ouais, il y a une course au MVP. Shohei Ohtani est phénoménal. C'est une sensation. On peut pas le nier. Par contre, est-ce que, le terme de MVP, Most Valuable Player, s'affiche puis peut être véridique et vraisemblable alors que le club ne fait même pas les séries? Vladimir Guerrero, lui, par contre, on s'entend, son club est en pleine course pour les séries, puis il y a un rôle vraiment crucial, majeur dans cette course-là, dans ce club-là.
C'est clair. Quand on parle de la valeur d'un joueur, je crois pas qu'on devrait regarder nécessairement le portrait de classement. Là. Vu que la valeur de Shohei Ohtani est juste incroyable et remarquable, même si l'équipe en tant que telle performe pas autant. Parce que là, c'est dur à en faire plus. Je veux dire, il commence des matchs, il est dans le line-up pratiquement tout le temps, il est sur le terrain.
Ouais, puis on peut pas le faire lancer trop souvent. Là. Il a pas atteint le nombre de manches nécessaires pour se qualifier en tant que lanceur partant à saison longue. Par contre, je veux dire, il est de tous les matchs des Angels, là, que ce soit au bâton ou sur la butte. Donc, ouais, on s'entend, Vladimir Guerrero ne lance pas, mais sa contribution est pas mal plus, comment dire, importante pour les Blue Jays. Et ben son club est dans la course. C'est ce qui devrait comme compter si on prend le titre de joueur le plus utile à son équipe. Si Shohei Ohtani fait tout ça, mais que son club ne se rend pas en série, je pense que c'est un peu inutile.
Ah, c'est sûr.
Qu'est-ce
c'est
que t'en penses?
Un bon argument.
Ben, c'est le trophée, là. Je veux dire, j'enlève absolument rien à Shohei Ohtani, tu sais. Mais selon le concept de joueur le plus utile, on n'a pas
le
choix
d'y aller. Contexte,
ouais. Et le contexte, on doit y aller avec Vladimir Guerrero Jr. D'après moi, c'est lui qui va gagner le MVP, malgré la saison
côté
phénoménale.
De la Ligue américaine.
Oui, ouais, dans la Ligue américaine, voilà. Hey, ce qui nous amène à parler de la nationale.
On parle de l'autre bord?
Yes, de l'autre côté de la clôture.
De la clôture. D'accord. Il y a quand même beaucoup aussi de choses à dire sur dans cette ligue-là qui est tout aussi intéressante. Là,
tout à fait.
Qui est pratiquement la même chose aussi. Là. La seule différence, on sait que c'est le lanceur qui frappe, c'est ça, en fin de rotation. Et on commence avec la Ligue Est.
Oui. Avec les Braves. Hein?
Les Braves, c'est ça.
Les Braves qui sont meneurs de cette division-là.
Mais de pas beaucoup.
Non, c'est ça, c'est très, très chaud encore. Là. Les Braves qui ont 83 victoires, 72 défaites. Les Phillies qui sont très près derrière avec 2 matchs et demi. J'ai comme un feeling que les Phillies vont peut-être dépasser les Braves. Je sais pas pour toi, là, j'ai comme un feeling que là, Bryce Harper va se réveiller. C'est peut-être il y a une saison aussi époustouflante. Mais je pense qu'ils ont fait de bonnes acquisitions aussi à la date limite des transactions. Carl Gibson, qui est un.
Justement,
un bel
les deux s'affrontent ce soir.
Ouais, c'est ça.
C'est le match-up. Ouais. Wow, ça va être vraiment intéressant. Ouais. Wheeler contre Morton.
Ouais.
Ça va être une belle course, en effet. Ton scénario est très, très réaliste aussi. Je vois quand même aussi les Phillies dépasser les Braves d'Atlanta, contrairement aux Mariners avec les Astros. Uh-huh. Mais comme la balle est dans leur camp aussi. Là, ouais. Je veux dire, les Braves d'Atlanta en ce moment ont l'avantage. Donc c'est à eux de finaliser le tout. Sinon, les Phillies peuvent peut-être passer au deuxième meilleur, mais les Cardinals sont en train de boucler la boucle, comme on dit.
On oublie ça, ouais.
Et on va en parler prochainement.
Pour le reste, dans l'Est de la Nationale, les Mets encore, quelle déception.
Ouais, les Mets font partie aussi de mes déceptions.
Oh my God, je veux dire, on a essayé en plus à la date limite des transactions aussi. Crime, on est allé chercher Javi Baez à l'arrêt court. Qu'est-ce que ça prend de plus? Là? On a DeGrom qui est le meilleur lanceur de sa génération ou presque. Je comprends pas. Pour vrai, je comprends pas.
Non, beaucoup de déceptions de leur côté. Ils ont eu beaucoup de blessures aussi, mais ça reste que c'est ça à la limite des transactions. Ils auraient pu. Ils ont fait quelques moves, mais ils n'ont pas marché en tant que tel.
Non.
Comme j'essaie de me souvenir du joueur vedette qui tout le monde attendait de débloquer, puis il n'a jamais.
Francisco Lindor.
Lindor, c'est ça.
Ouais. Okay. qu'on a été chercher à la saison morte. Là.
Ouais. On a attendu un peu que ça débouche, puis ça a peut-être attendu un peu trop longtemps. Quelle déception.
Pete Alonso aussi, ben, on s'entend, la puissance est là, mais la moyenne, non. Je sais pas. Quel club plate. Vraiment un club plate, les Mets. C'est décourageant ce qui se passe.
Très décourageant.
Ouais. Ils ont oublié aussi pour les Nationals.
Ouais, on en parlait beaucoup au début. Moi, j'avais espoir en fait qu'ils reviennent à la vie. Là. Ils commencent souvent avec des débuts difficiles. Mm-hmm. Ils cherchent un peu, mais ils réussissent toujours à replacer les morceaux. Pas cette fois-ci.
Non.
Pas cette fois-ci, malheureusement. Ils sont très loin derrière.
Ouais.
Puis, c'est une saison oubliée presque. Ils sont près des 100 défaites. Là,
ouais,
quand on y repense. Là,
pour un club qui a gagné la Série mondiale il y a quoi, 3 ans? Là?
Ouais. En 2018.
Ouais, Juan Soto, leur voltigeur vedette, est un peu seul au monde en ce moment.
Non, c'est plate, mais il y a quand même encore des bons éléments dans l'équipe. Puis, c'est pas perdu. Là,
non, c'est pas peine perdu. Pareil pour les Marlins qui avaient participé aux séries l'an passé.
C'est vrai, elle compte tout à l'heure.
Ouais. Mais non, effectivement, cette année, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'était une saison Cendrillon. Là.
Ouais, la saison, je pense que c'est un bon terme pour décrire la saison des Marlins.
La 2021, là, ouais. Mais bon, il reste encore des Starling Marte comme voltigeur de centre.
L'an passé, le format était un peu différent, je crois, quant aux séries. Il y avait plus d'équipes qui étaient acceptées, je crois. Ouais. Bref, c'était un bon moment pour eux, mais je ne crois pas que ça va réarriver de sitôt. Yes.
Passons à la centrale de la Nationale maintenant.
Surprise, surprise, ouais. Il y a les Brewers. Autant les Brewers que les Cardinals, mais commençons avec les Brewers qui sont au sommet. 94 victoires, wow. Un différentiel de 130, je veux dire.
Phénoménal, étonnant aussi. Comment dire?
C'est ça, étonnant. Je m'attendais pas à ces résultats-là, ces statistiques-là aussi.
Écoute, Corbin Burnes.
Les lanceurs sont exceptionnels. Ouais.
Brandon Woodruff. Puis je veux dire, autant aussi en fin de match, le Frankie Peralta. Waouh, quel gars. Devin Williams qui s'est replacé. Josh Hader qui ferme les matchs, ferme les livres à chaque fois qu'il en a l'occasion.
Non, puis quand ils sont proches de perdre, ou tu sais, ils ont toujours un boost offensif à la fin de partie, puis ils réussissent à décrocher une victoire inattendue. Fait que c'est ces victoires-là au final qui ont fait que. Ils ont une si belle saison en ce moment.
Puis défensivement, il n'y a absolument rien qui passe. Dans le diamant avec Colton Wong et Willy Adames, qui est un de tes préférés.
C'est vrai, il est
de
ce
côté. Il joue très bien,
là,
d'ailleurs. Puis il avait accumulé quoi, 22 circuits, je pense, depuis le début de la saison.
Même son début de saison avec eux, c'était phénoménal. Vraiment? Il frappait tout le temps. Il a fait sa place avec les Brewers. Puis...
je pense que c'est un bon environnement pour lui. Ça, avec Colton Wong, c'est un bon duo à l'intérieur de l'avant-champ. Après ça, à l'extérieur, tu as Jackie Bradley Jr. et Lorenzo Cain aussi qui sont excellent défensivement, même s'il ne frappe pas nécessairement beaucoup. On n'a même pas besoin de Christian Yelich dans ce club-là. Là. C'est assez fou. C'est vrai, assez fou ce qui se passe à Milwaukee.
Mais les Cards. Imagine s'il s'ajoute à l'alignement, ça serait...
C'est ça, exactement. Ben, il est là, mais on n'en a même pas besoin, ou presque, de sa contribution. Du moins, on parlait des Cards un peu plus tôt. Écoute, ils sont à 7 matchs. Ben, dans la course pour le meilleur deuxième, par contre,
ils
ça se passe.
Ils peuvent perdre un jour? À chaque jour, je regarde... Ben en fait, je reçois les notifications, puis j'échappe mon sel tout le temps. Comme, qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent tout le temps, puis vraiment au bon moment, là, au meilleur moment, je pense qu'ils ne pouvaient pas performer comme ça. Ils sont en train de balayer tout le monde pour faire leur place en série.
Exact.
Parce qu'ils étaient quand même loin de là. Mm-hmm. On remonte à il y a un mois et demi.
Ouais, tout à fait.
Puis là, ils sont tu sais, je veux dire, en dessous, t'as les Reds de Cincinnati à 5 matchs et demi. Donc,
ils sont presque éliminés, là, les
c'est
Reds.
C'est ça, ils ont une très bonne avance. Il suffit de peut-être en gagner une ou deux. C'est pas dans la poche parce qu'on s'en va au meilleur deuxième et on s'en va affronter les Dodgers de Los Angeles.
Ouais.
Donc, ça va être très intéressant. Ça va être tout qu'un match.
Exactement. Ce qui nous amène à parler de l'Ouest de la Nationale avec ces fameux Dodgers qui sont à deux matchs derrière la plus grande surprise dans le baseball majeur cette année. Puis, pas à peu près.
Ouais, sans aucun doute.
Les Giants de San Francisco qui ont atteint le plateau des 100 victoires un peu plus tôt cette semaine. Maintenant, sont à 102 victoires, 54 revers. Une fiche à domicile de 49-26. Puis à l'étranger, c'est encore plus impressionnant. 53 victoires à l'étranger contre 28 revers.
Et... au début de la saison, on les considérait même pas vraiment dans la course. On parlait que des Padres, qu'on va revenir en passant. Et les Dodgers, on parlait que d'eux.
Ouais.
Même les Rockies qui avaient bien fait dans... Rockies et Diamondbacks qui ont bien fait dans les 3-4 dernières années. Mais...
ouais.
Les Giants, allô? 102 victoires, c'est ça, c'est la plus grande surprise de tout le baseball et ils se méritent.
Vraiment, avec un club de plombiers, là, avec des gars qui jouent ensemble depuis vraiment longtemps, un club vieillissant, avec quelques éléments greffés, vraiment là, greffés et non, et non des éléments vedettes.
Non, puis beaucoup de blessures aussi, des va-et-vient.
Ils ont eu plein de blessures. Là. Evan Longoria a été blessé presque toute l'année. Brandon Belt là, qui vient de se blesser. Mais le club, je veux dire, pallie à chaque fois qu'un joueur est blessé. Même Mike Yastrzemski a été blessé une bonne partie de l'année. Écoute, Kevin Gausman lance du feu depuis le début de la saison. Même chose pour Alex Wood. Bravo. Bravo les Giants pour vrai.
Gausman était dans nos joueurs étoiles pas mal là, quand on parlait des lanceurs.
Oui, au printemps dernier, oui.
Donc, il a continué de bien faire ça. C'est vraiment ouais. C'est le fun pour eux. Mais ça vient avec une déception, malheureusement. Puis c'est les Padres de San Diego.
Ouais.
Là, leur fiche, 78 victoires, 78 défaites.
Yes.
Donc, une saison de 500 carrément, qui ne devrait pas avoir lieu. Je veux dire, aussi avec le succès du début de saison, ça a donné beaucoup d'espoir autant aux partisans, à tout le monde dans le baseball même. Je crois qu'on les imaginait tous.
Mm-hmm.
On les imaginait quasiment gagner. Tu sais, je veux dire, les Padres, c'est une équipe qui cherche depuis longtemps et ils n'ont jamais gagné la Série mondiale. C'était pratiquement leur année, là, sur papier au début de la saison. Et même après un mois, peut-être, on aurait pu dire la même chose. Mais là, c'est une toute autre histoire. Ils ont été assommés par des blessures beaucoup. Ouais. Même l'esprit dans l'équipe. J'ai rarement vu, c'est ça, des nouvelles comme ça sortir, qu'il y a des altercations entre des joueurs dans le dugout, comme avec Fernando Tatis et Manny Machado. T'sais, c'est deux grandes vedettes. Deux grosses vedettes. Mais quand ça va mal, et là, le leadership, ça je veux dire, ça a pas marché. Ça a pas marché, malheureusement. Et ils savaient, on voyait la frustration monter dans les derniers mois.
Hey, meilleure chance la saison prochaine, les Padres. Parce que là, c'est terminé. Ils sont à 24 matchs.
Non, c'est terminé, c'est sûr. Mais je veux dire, comment on s'en est rendu là? C'est ce que j'ai essayé de me dire.
Peut-être trop de tête forte, justement. Puis l'apport aussi des joueurs de soutien comme Tommy Pham, il y a une saison en dents de scie, des grosses séquences, mais après ça s'est éteint. Pareil pour Jurickson Profar.
Tommy Pham, c'est récurrent pour lui, là, pour avoir été avec Tampa Bay aussi. Ouais, c'est ça. Je me souviens que pendant une semaine ou deux, il peut nous allumer. Il peut être waouh, t'es Tommy Pham, le joueur de l'année, waouh. Puis on n'entend pas parler après 2, 3, 4, 5 semaines. Après, il revient en force, let's go. Donc, c'est assez récurrent.
Oui. Non, c'est clair, effectivement. Sinon, dans l'ouest de la Nationale, il y a les Rockies puis les Diamondbacks qui croulent
dans
les sous-sols de cette division-là. Avec, c'est des saisons à oublier pour les deux, mais c'est des clubs en reconstruction et on doit vraiment, changer la structure et la culture de l'équipe. Je pense autant au niveau des Rockies qui sont seulement bons à domicile parce que la balle voyage tellement au Coors Field. Et ben les Diamondbacks, ça passe par les lanceurs. Là. Pourtant, ils ont eu de bons prospects, de bons jeunes dans les dernières années, mais ils ont tout échangé pour
mais les lanceurs, c'est ça. Comme en ce moment, je pense qu'ils ont deux lanceurs avec des très bonnes séquences sans accorder de points. Donc, c'est pas mauvais. C'est bon, c'est prometteur aussi. Mais ouais, ça fait pitié un peu de leur côté. Puis les Dodgers, je dois mentionner Max Scherzer. Je veux dire, depuis qu'il a été échangé des Nationals de Washington avec eux, il a accordé seulement trois circuits puis 8 buts sur balle avec 85 strikeouts.
En 10 départs,
c'est ça. C'est même pas dans la saison complète, c'est simplement avec son temps avec les Dodgers de LA. C'est hallucinant. J'ai très hâte de le voir en série aussi, comment ils vont s'en servir dans la rotation avec Clayton Kershaw et tous les autres. Ça va être très intéressant. Les Dodgers, qui sont évidemment pas à sous-estimer, là, sont...
Écoute, peut-être que ce sera un troisième triomphe là, d'affilée.
Oui, c'est ça. Maintenant qu'on sait qu'ils sont plus maudits, là, ils sont capables de la gagner maintenant. Là.
Clairement. Puis surtout avec Trey Turner aussi à l'arrêt court. Je veux dire, ce club-là a les outils pour le faire. Hey Joe, on s'en va en pause publicitaire parce que là, on a fait un méchant tour d'horizon du baseball puis on a presque délaissé le hockey. Hein. Donc, on a presque le temps
c'est d'en vrai, parler. Okay.
C'est ça. Par contre, on s'entend, c'est le début de la saison, les matchs préliminatoires qui commencent à peine.
Non, c'est tout frais. Là, c'est...
Ouais, on en parle brièvement au retour de la pause. Vous écoutez Conduite Antisportive.
Yeah. Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h, Chiz 94.3.
Victory! D'écoute!
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Ici Jonathan Marchessault des Golden Knights de Las Vegas. Vous écoutez Chiz 94.3, la radio des remparts de Québec.
Eh oui,
c'est sûr.
Conduite anti-sportive sur les ondes de Chiz 94.3. Écoute, on va parler brièvement de hockey parce qu'on a aussi une chronique préenregistrée avec PA qui est du côté de l'Ohio. On finira avec ça l'émission d'ailleurs. Est-ce que tu as écouté les matchs préparatoires un peu dans la Ligue nationale de hockey?
Non.
Jonathan? Non, hein?
Non, mais j'ai quand même regardé un peu ce qui s'est passé à ce niveau-là. T'sais, on a eu deux parties du Canadien de Montréal,
ouais,
et une du Kraken de Seattle que je vais suivre particulièrement. Ben, je crois que tout le monde on va être un peu
avec curiosité
curieux, hein, de voir ce qui se passe de ce côté-là. Puis là aussi, avec le retour des divisions normales aussi, ça va être intéressant de voir les affrontements contre Tampa Bay, Buffalo, Floride.
Mm-hmm.
Donc, ça va être très intéressant à voir.
Écoute, moi...
Tu retiens quoi des matchs préparatoires?
Contrairement à toi, je les ai écoutés un petit peu. D'ailleurs, samedi dernier, on a fait un pool de hockey avec mes amis. Donc, okay, c'était notre soirée... sanctuaire de hockey, là, dans une cave vraiment, pas grotesque, mais à l'effigie du Canadien avec des posters de Team Canada. C'était un peu une illusion. Je sais pas où j'étais. J'ai sûrement pris un vortex. Un peu comme PA qui a pris un portail jusqu'en Ohio. Là. Mais en tout cas, ouais, c'était une drôle de soirée. Et ben, en trame de fond, on écoutait le match du Canadien contre les Leafs de Toronto. Certes, c'est un match préparatoire, c'est pas l'équipe A des deux côtés qui est là sur la glace. Par contre, il y avait quand même de gros morceaux. Caulfield était là du côté de Montréal, Suzuki aussi. On avait John Tavares du côté des Leafs. William Nylander aussi a fait la pluie et le beau temps dans ce match-là. Pour vrai, il a éclipsé la défensive du Canadien. Et surtout, les ailiers, là, ils se retrouvaient dans des positions vraiment fascinantes là, et vraiment trop faciles. Surtout dans l'aile gauche, c'était ridicule un peu la défensive du Canadien, ce match-là. Match à oublier, ça a fini quoi? 4-1, je pense, que Toffoli a marqué en échappé. Mais rien à ajouter puis rien à retenir vraiment. Ouais.
De bon, on se rappelle, Toronto va quand même être affamé cette saison-là encore, là, après avoir été encore humilié et pas dans les séries l'année passée. On va s'attendre encore à plus d'eux, puis eux, ils s'attendent à plus d'eux aussi. Là.
Écoute, Matthews va certainement viser le plateau des 50 buts. On a un nouveau gardien du côté de Toronto, Peter Mrazek. Reste à voir. Je sais pas, il y a eu une bonne saison l'an passé avec les Hurricanes. Mais je vois pas un club amélioré sur la glace, surtout pas en défensive. Écoute, Jake Muzzin est encore là, Morgan Riley est encore là.
C'est très tôt encore, c'est ça. On va pouvoir voir dans les prochaines semaines.
Ouais, reste à voir.
Même le Canadien, il y a eu beaucoup de changements. Là. On sait que Kotkaniemi, Corey Perry, Philippe Dano, Eric Staal, Tatar ont tous quitté l'équipe.
Ouais.
Mais on a accueilli quand même de nouveaux joueurs qui compensent quand même bien au niveau de l'équipe, là, du niveau de compétitivité qu'on pourrait avoir cette année. Des noms vite, Drouin aussi, Perrault, Dvorak, Wideman, Hoffman. Donc, ça, c'est à voir pour ces joueurs-là.
Yes, yes. Donc, on suit ça, puis on va certainement en parler la semaine prochaine. Écoute, on va entendre la chronique de PA qui est du côté de Columbus, Ohio.
Yeah.
Hey, vous écoutez toujours Conduite Antisportive et notre Pierre-Alexandre Tremblay, national, nous a préparé une chronique très spéciale alors qu'il s'est évadé à l'étranger.
Oui, effectivement, j'ai profité pour du fait que je peux plus être en studio pour faire être le premier journaliste de terrain de Conduite Antisportive. Présentement, je suis au Nationwide Arena à Columbus, en Ohio, pour vous parler de ma première chronique de sport, mais de sport entertainment. Et oui, ce grand mot inventé par Vince McMahon pour parler de son sport fétiche, soit la lutte professionnelle. Oui, cet été, ça a été le premier été de la grande rivalité. Après 20 ans d'hégémonie de la WWE, là, ils ont enfin la concurrence digne de son nom en AEW ou AW pour les intimes. Oui, effectivement, après 2 années de suite à commencer à se bâtir avec des nouveaux rosters dans leur équipe, à prendre des jeunes pousses qui allaient pousser par là, beaucoup de personnes se sont retirées de la WWE ou se sont faites sacrifier par le nouveau grand Manitou de la WWE, soit Tony Khan. Donc, plusieurs se sont séparés. On parle présentement aussi de Bryan Danielson, qui a été présentement pas licencié, mais le premier aussi à ne pas choisir de retourner dans la WWE. Lui, qui était une tête d'affiche, il a décidé de dire non à Vince et dire « Non, je vais aller à la concurrence, je vais aller ailleurs, je vais franchir les portes interdites. » On pense aussi à Bray Wyatt, qui était un des plus grands génies créatifs que la WWE a eu dans les 5 dernières années. Et je viens de me rendre compte que je viens de dire WWE pendant 10 fois, donc je dois vendre maintenant de l'argent à Vince. Nous allons continuer avec Brian Wilson. Un beau lapsus, excusez-moi, Bray Wyatt.
Ancien lanceur des Giants.
Exactement. Moi, je pensais plus au gars des Beach Boys.
Aussi, Brian Wilson.
Bref, je continue. Bray Wyatt, qui a été engagé... Il reste 90 jours à son contrat. Non, son contrat est expiré et ça, on attend encore 90 jours pour avoir son nouveau contrat qui devrait arriver au courant de la semaine prochaine, qui devrait être annoncé, lui, au nom de AEW. Bref, je m'égare pour dire que finalement, cette année, on a enfin de la concurrence. Des matchs 5 étoiles ont déjà été faits, par certains joueurs. Excusez-moi.
Mais là, PA, tu sonnes vraiment bien pour un gars en Ohio. T'es-tu dans un studio quelconque?
Exactement, c'est le studio portable de Chiz que j'ai eu avec nous autres.
Le studio mobile
que j'ai décidé de me déplacer avec. Je ne l'ai pas dit à personne, mais pendant une nuit, je suis rentré ici, j'ai volé du stock et je suis parti en Captimini.
C'est bien correct, PA. De toute façon, il fallait plugger le studio mobile, donc c'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais revenons à nos moutons.
Oui, effectivement. Hier, c'est depuis une couple de semaines, les deux se font une grande concurrence pour la tranche d'âge des
18-49
ans.
La AEW. Hein?
La AEW. La AEW a gagné les 2 dernières semaines dans les Audima. Et cette semaine, c'est la WWE qui a retourné avec son show Far Raw pour prendre le devant. Mais la lutte continue. La lutte continue. Mais Danielson, que j'ai parlé plus tôt, qui était son ancien nom, qui était Daniel Bryan, qui a changé de nom parce que le nom appartient à WWE, parce qu'eux autres appartiennent. Ils ont décidé que son nom, il changeait son nom et il voulait vraiment se battre au Japon, se battre dans d'autres concurrences. Qu'est-ce que permet maintenant cette nouvelle ligue-là? Et c'est ça qui est intéressant pour les lutteurs présentement, c'est que la nouvelle ligue qui a été créée par Cody Rhodes permet plus de trucs à nos lutteurs. Par exemple, on pense à Adam Cole qui, lui, a quitté la WWE tout simplement parce qu'ils empêchaient les lutteurs d'aller sur Twitch. Ils voulaient que le contrôle total, ils disaient « OK, si vous allez sur Twitch, il y a une certaine partie de vos revenus qui va nous revenir ».
C'est une dictature,
c'est
ça,
une
non?
dictature. Adam Cole a refusé de céder son Twitch et c'est pas mal une des raisons qui a donné sa démission.
On parle avec aussi, raison.
Avec raison. On parle aussi à d'autres personnes qui sont pas encore quittées la ligue rouge et bleue, mais qui veulent qui partent énormément de personnes dans un comment on appelle ça, Twitter, le oiseau bleu.
Oui.
On parle de notre fameux Kevin Steele, ou aka Kevin Owens, québécois de Maryville.
Oui, c'est vrai.
qui est malheureux à la WWE, que son personnage est mal utilisé, il trouve qu'il n'y a pas assez de bons combats. Il a fait un Twitter, comment dire...
Un gazouillis, quoi.
Hein?
Il a fait un gazouillis.
Un gazouillis encrypté.
Okay.
Disant que les coordonnées du Mont Rushmore, qui était son... en disant, je suis presque là. Le Mont Rushmore, qui était son ancien nom d'équipe, et ses anciens équipiers sont à AEW. Donc, lui, en janvier, devrait quitter pour l'autre fédération.
Wow.
Mais bref, c'est quelque chose à voir, de voir ces combats-là. Mm-hmm. On avait justement, avant-hier, je ne sais pas ma raison pour laquelle je suis au Nationwide Arena, le Extreme Rule, qui n'a eu aucune règle extrême. C'était tous des combats réguliers, à part un. On a vu la défaite du démon. Oui, il y a des démons maintenant dans la lutte.
Est-ce que le public était déçu, justement?
Le public a été... c'est une nouvelle affaire sur la WWE. C'est qu'ils ont un studio maintenant qui peuvent changer les sons, qui peuvent changer, qui mettent des effets 3D, qui mettent des animations envers leurs joueurs. Ils décident de faire... Ils peuvent changer les sons dans le... ils changent les sons à la capture télévision. Mais quand on écoute sur place, on entend les huées, on veut les noms des lutteurs qui sont partis depuis 6 mois. On parle aussi des personnes qui ont été signées, des grands noms. On parle le plus grand nom que tout le monde réclamait depuis 6 ans dans la